Il y a certains croyants qui témoignent à outrance et font quasiment du recrutement au lieu d'évangéliser. Il va pourtant falloir qu'on réalise un jour qu'irriter les gens ne concourt pas à leur salut, mais à leur aliénation de Dieu plutôt. Alors à travers ce message-là, je me propose de souligner le fait qu'il faut qu'on respecte les gens à qui on témoigne. Les chrétiens doivent partager leur foi pour trois raisons. Premièrement, parce que le monde dans lequel on vit a besoin d'espérance, selon Éphésiens 2:12. Ils ont aussi besoin d'être sauvés d'eux-mêmes, puis dans le pire des cas, ils ont besoin d'être sauvés de l'enfer. 1 Timothée 2:4 nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, en partant de ce texte-là, plusieurs se sont dit que tous les moyens étaient bons pour amener quelqu'un au salut. Mais comme on dit souvent, la fin ne justifie jamais les moyens. Dans le Seigneur, on ne peut pas employer des moyens vils pour arriver à des fins nobles. Ça ne se fait pas. Alors faisons bien attention, purifions nos motifs intérieurs, puis n'ayons pas peur de creuser parce que souvent des motifs purs et impurs de superposer ou de mélanger en nous. L'agressivité dans le témoignage vient souvent de la part de ceux qui ont reçu un don réel de la part de Dieu pour évangéliser, mais qui s'en servent mal à cause peut-être d'immaturité. Ils ont vraiment le goût de témoigner. Le problème, c'est que ces frères-là développent souvent en même temps une sorte d'indignation à la vue de tous ceux qui n'ont pas les mêmes aspirations qu'eux autres. Un peu comme Marthe, qui était irritée de ce que Marie vienne pas l'aider dans son travail pour le Seigneur. Ils se mettent à éperonner tout le monde avec Matthieu 28-19. On dirait qu'il s'agit qu'un croyant est un don là pour qu'il se mette à juger tous ceux qui ne l'ont pas. Avez-vous remarqué ça? Alors, l'évangélisation doit avoir pour base une conviction personnelle. Brandir Matthieu 28-19, puis le mettre sur le dos de tout le monde, ça ne suffit pas pour partir. Oui, le monde a besoin d'être évangélisé, mais pas par des croyants qui se croient meilleurs que les autres, ou qui sont à l'œuvre parce qu'ils sont sous le complexe d'une fausse culpabilité. Il y en a qui disent, « Ah, bien, si on n'insiste pas, les gens viendront pas au Seigneur. » C'est pas vrai, ça. J'ai lu les réveils religieux de Charles Finney, puis aussi le journal de David Brenner, puis bien d'autres livres qui parlaient de réveils spirituels. Puis durant les réveils spirituels, la plupart des prédicateurs constataient toujours que la puissance convaincante de Dieu était déjà à l'œuvre dans le cœur des gens, avant même qu'ils aient commencé à prêcher. Alors l'évangélisation, c'est d'abord et avant tout le travail de Dieu. Que ce soit bien clair dans nos esprits. Alors il est totalement inutile de culpabiliser l'Église parce qu'elle n'évangélise pas assez à notre goût, parce que même si elle évangélisait beaucoup plus, je suis loin d'être sûr que ça ferait une différence, mes amis. Si vous avez ce désir de voir des gens sauvés, c'est probablement parce que Dieu désire vous utiliser. Dès le moment où vous sentez une certaine irritation ou frustration de voir que les gens autour de vous n'évangélisent pas assez à votre goût, comme vous, c'est le signe certain que votre zèle est souillé par votre propre justice. Vous êtes encore charnel, puis vous devriez vous taire. Cessez d'exhorter les autres jusqu'à ce que Dieu vous ait sanctifié de ça. Cessez d'essayer de pousser ou de traîner les autres avec vous autres. Travaillez plutôt à faire grandir en vous ce désir de voir des gens venir au Seigneur. Cultivez ce don que Dieu vous a donné. Par la prière, nourrissez en vous le feu de l'aspiration à un réveil. Rendez pas les gens autour de vous responsables de ne pas avoir le même fardeau que vous. Si Dieu le veut, vous pourrez peut-être communiquer votre fardeau des âmes à d'autres. Je fais une parenthèse, j'ai pas dit le fardeau d'évangéliser, mais le fardeau des âmes. Le fardeau de voir des gens venir au Seigneur. Parce que le fardeau d'évangéliser, moi je l'ai eu depuis longtemps. Je l'ai eu longtemps, puis aujourd'hui, je sais qu'il n'y avait absolument rien de spirituel là-dedans. C'était tout juste bon pour me glorifier d'un côté, puis me culpabiliser, troubler ma relation avec Dieu, puis rendre ma vie chrétienne lourde et un peu misérable. Si notre fardeau pour l'évangélisation est un fardeau culpabilisant, qui nous culpabilise, il ne s'agit pas du fardeau des âmes que l'Esprit de Jésus communique. En Éphésiens 2, 8, 9, ça dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres ou les efforts afin que personne ne se glorifie. Bon, les réveils spirituels, ça fonctionne exactement sous le même principe que la conversion ou que la sanctification. C'est par grâce qu'il va y avoir un réveil. Ça ne viendra pas de nous autres, de nos efforts humains pour évangéliser plus, mais ça sera un don de Dieu. Si vous croyez qu'en secouant les gens dans l'Église pour qu'ils aillent évangéliser, que vous allez avoir un réveil comme ça, je vous dis tout de suite que vous êtes en route pour une grande déception. J'en connais qui ont essayé pendant longtemps, puis qui ont vécu frustration après frustration. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, vous savez, puis rendre les gens responsables de ne pas porter les fruits qu'on voudrait. En nous appuyant comme ça sur les jambes de l'homme ou dans la vigueur du cheval, dit l'Écriture, on bâtit notre maison ou notre œuvre sur le sable, mes amis. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, je faisais partie d'un groupe qui était consacré à plein temps à l'évangélisation, mais qui croyait malheureusement pas beaucoup à la prière. Si le zèle à l'évangélisation avait été le secret d'un réveil, on aurait sûrement fait un véritable malheur au Québec parce qu'on a évangélisé. Mais nos efforts étaient en grande partie stériles. Il n'y a jamais eu de réveil. Puis quand j'ai réfléchi, là, je me souviens qu'il n'y a pas eu plus que quelques conversions en plusieurs années. Alors le zèle pour l'évangélisation, c'est très relatif. Non, ce n'est pas la clé de tout. L'évangélisation n'est pas la clé d'un réveil. C'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est un réveil que Dieu donne va stimuler les gens, les pousser à l'évangélisation. Si l'Esprit de Dieu n'évangélise pas devant nous, ceux qui évangélisent, évangélisent en vain. Si Dieu n'exhorte pas lui-même une personne à l'évangélisation, celui qui l'exhorte, l'exhorte en vain. Il est stupide d'exhorter tout le monde à l'évangélisation pour la simple raison que ce n'est pas tout le monde qui a la maturité spirituelle requise ou les capacités spirituelles requises pour faire ça. Quand on vient de se convertir, ce n'est pas urgent de témoigner, d'aller témoigner. Quand on est jeune dans le Seigneur, Christ est loin d'être complètement formé en nous. C'est un fait. Notre témoignage est souvent pas naturel. Il ressemble souvent plus à du recrutement qu'à de l'évangélisation, on l'avait dit tantôt. On ressemble à des vendeurs, hein. On n'est pas capable d'être nous-mêmes, puis on ressemble plus à des vendeurs qui font de la publicité pour une quelconque marchandise miracle qu'autre chose. Mais à mesure que le Christ prend forme en nous au cours des années, ben plus on a de vécu derrière nous autres, plus il devient aisé d'en parler naturellement comme d'une réalité de tous les jours, puis qui ne choque pas les gens. Les gens vont plus avoir cette impression désagréable-là qu'on essaie de les embarquer dans quelque chose. Les croyants qui sont... Le croyant qui est apte à évangéliser devra être une personne dont le cœur est détaché de ce monde. Il n'y a rien que ceux qui vivent ce détachement-là qui peuvent évangéliser efficacement. Le christianisme, c'est la religion de la sainteté. L'évangélisation est un appel à sortir hors du monde, c'est-à-dire hors du péché et des endroits qui sont des occasions de péché. Alors il faut avoir soi-même un cœur détaché du péché avant d'appeler les hommes à se détacher du péché. Sinon, ça ne fera pas des enfants forts, notre évangélisation. Il faut obligatoirement être soi-même près de Dieu avant d'appeler le monde à s'approcher de Dieu. Il faut être consacré avant d'appeler les hommes à la consécration. Sinon, notre message n'aura pas un grand impact spirituel. On va en parler un peu de l'esprit sectaire, maintenant, qui se trouve souvent derrière notre témoignage. C'est ça qui le rend agressif quelquefois. Au lieu de prêcher Jésus-Christ, plusieurs croyants ont la fâcheuse tendance de prêcher leur église particulière en même temps. Cette attitude sectaire-là nuit au salut du monde et au progrès de l'Évangile. Les gens craignent les recruteurs, puis avec raison, si vous voulez mon avis. Quand on évangélise, les gens ont souvent l'impression que notre unique but, c'est de les détacher de leur église puis de les amener dans la nôtre. Pas vrai? Puis dans une certaine mesure, je pense que c'est encore vrai. Il arrive qu'on perde de vue un petit peu le but premier de l'évangélisation. Je pense que les gens s'en rendent compte. Qui est d'amener l'homme au renoncement au péché, à une foi sincère en Jésus-Christ. Tout le reste est secondaire. Tout le reste peut attendre, là. Beaucoup de chrétiens font du recrutement au lieu d'évangéliser. Ils font du recrutement pour leur paroisse, comme on dit, au lieu d'évangéliser parce qu'ils croient que le salut se trouve uniquement à l'intérieur de leur église particulière et pas ailleurs. Souvent, on ne réalise pas notre sectarisme. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous montrer ce que je veux dire. Aux États-Unis, il y a plusieurs années, le poste de radio de la ville offrait un temps gratuit d'antenne à toutes les différentes églises locales de la ville. Waouh, toute une opportunité là, que Dieu faisait là, aux églises. Et, on est allé jusqu'à contacter les pasteurs et les ministres pour leur offrir ça. La seule condition, c'était qu'on ne permettait pas à ceux qui allaient prêcher l'Évangile de dire le nom ou l'adresse de leur église. Alors, il y a un pasteur qui a refusé, qui s'est fâché, il a refusé de profiter de l'opportunité parce qu'il s'est dit, hey, moi, si je peux pas amener les gens dans mon église, j'aime mieux pas évangéliser du tout. J'ai pas envie que les gens que j'évangélise se retrouvent ailleurs dans des églises que j'approuve pas. Hein? Voyez-vous le raisonnement? Il y avait là une merveilleuse opportunité de prêcher l'Évangile à des dizaines de milliers de personnes, mais si ses efforts contribuaient pas à remplir son poulailler, ben, il a préféré rien faire du tout. Hein? Mieux vaut que le diable les aille, si c'est pas moi qui les a. C'est un peu la philosophie là, de raisonnement. En fait, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Mes amis, mettons pas notre Église en avant de Jésus-Christ. Prêchons Jésus-Christ et son Évangile. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il n'est pas important d'amener les gens à appartenir à une bonne Église. Mais on doit faire très clair dans notre message de départ que le salut n'est pas une question d'appartenance à une Église plutôt qu'une autre. Quand les gens seront sauvés, là, ce sera le temps de les aider à discerner la vérité de l'erreur doctrinale puis de les inviter à changer d'église s'il le faut. En attendant, soyons heureux de ne prêcher que l'Évangile de Jésus-Christ. Paul a dit quelque part, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ce n'est pas notre petit groupe qu'on prêche, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Les chrétiens évangéliques aujourd'hui mettent trop d'emphase sur leurs différences doctrinales, puis en sont venus à élever leur credo, puis à le prêcher sur un même pied d'égalité que s'il s'agissait de l'Évangile quelquefois. Alors les gens remarquent toutes nos différences, puis ils se disent, « Moi, j'irai pas m'embarquer dans une patente où les gens sont même pas d'accord entre eux autres. » On les comprend un petit peu. J'ai lu un petit livre catholique un jour qui s'appelait « Pourquoi tant de religions et pourquoi je suis catholique, je pense. » Puis ce qui m'a frappé là-dedans, c'est justement que le plus grand, le plus fort et le plus convaincant argument avec lequel l'auteur essayait de prouver que l'Église catholique était la bonne Église, c'était justement le fait que certaines dénominations chrétiennes et évangéliques disaient interpréter la Bible de la bonne façon alors qu'ils se contredisaient souvent entre eux autres à beaucoup d'endroits. Alors c'est pour ça que selon eux, il fallait que les gens mettent leur foi dans l'interprétation du pape, accepter simplement ce qu'il enseignait, puis de se laisser conduire par la foi. Selon l'auteur, on avait là la preuve que la Bible était trop difficile à interpréter. C'est pour ça que, selon lui, il valait mieux mettre sa confiance dans le pape, croire ce qu'il nous dit, puis cesser de se casser la tête avec toutes ces chicanes de religion-là. Vous comprenez le raisonnement? Pourquoi les gens remarquent tant qu'il y a des différences doctrinales entre les différentes églises évangéliques? Ben, parce que c'est à peu près ça qu'on prêche le plus quand on évangélise. Moi, je n'ai rien que je n'étais pas capable de dire amen à ça. Moi, je suis capable. C'est la stricte vérité. Aujourd'hui, beaucoup d'églises se prêchent elles-mêmes, puis le monde entier s'en est aperçu, sauf nous autres. J'ai coutume de dire que l'orgueil, c'est le seul péché que tout le monde peut voir chez une personne, sauf celui qui en est atteint. Alors, repentons-nous, mes amis, d'avoir mis Jésus-Christ dans l'ombre de notre clocher et dans l'ombre de nos credos. L'attitude de certains croyants qui parlent de leur église comme si elle était la seule vraie église de Jésus-Christ mine très sérieusement notre témoignage dans le monde. Très souvent, si on a un témoignage que les gens qualifient d'agressif, c'est justement à cause de cette étroitesse d'esprit-là à propos de la conception de l'Église, puis qui nous fait dénigrer les autres organisations religieuses. C'est bien beau l'Église locale, mais attention au localisme, attention au sectarisme. Tout comme chaque croyant devrait être rattaché à une Église locale, toute Église locale doit être d'une façon ou d'une autre rattaché au corps de l'Église universelle, au corps invisible. Nous devons avoir un esprit large, autrement dit, et un cœur capable d'embrasser des croyants qui n'ont pas peut-être le dixième de la connaissance biblique que nous autres on prétend avoir. Ce n'est pas la connaissance biblique qui doit nous unir en tant que croyants, mais notre fraternité spirituelle en Jésus-Christ. Que Dieu vienne en aide à tous ces petits esprits qui sont aveuglés. de propre justice. Kate Price a dit ceci. Les principes suivants résument les conclusions auxquelles je suis arrivé après avoir commis beaucoup d'erreurs. C'est dans la vie de Christ, pas seulement dans la compréhension des Écritures, que se situe le fondement de notre communion fraternelle. Ceux qui participent à la vie de Christ participent automatiquement à la nôtre. Notre communion découle beaucoup plus d'une relation d'amour que d'un échange sur des points de vue doctrinaux. Nous cherchons donc à démontrer que la vie de Dieu par Jésus-Christ crée un lien plus fort et plus étroit entre chrétiens que celui que pourrait créer une appartenance à une même organisation ou à une même église. Refléter un amour prêt à couvrir les fautes est plus conforme au comportement biblique que celui de constamment relever les sujets de désaccord. Conséquemment, nous serons davantage connus pour notre amour que pour ce qui nous oppose. Fin de citation. Les gens sectaires élèvent leur Église locale au-dessus de l'Église universelle de Dieu, ce qui est une très grave erreur. Une Église ne peut pas dire au reste de son corps universel « Je n'ai pas besoin de toi ». Durant les deux premiers siècles environ, l'Église de Jésus-Christ portait aucun nom. Quand il y avait des chrétiens dans une ville qui se réunissaient, on appelait ça l'Église de Dieu, de cette localité-là, tout simplement. Aujourd'hui, dans plusieurs villes, c'est quasiment la guerre entre les différentes dénominations, à savoir quelle est la véritable Église de Dieu. Puis croyez-moi, il n'y a pas que l'Église catholique ou les témoins de Jéhovah qui pensent comme ça, là. Je suis étonné de voir à quel point il y a des croyants évangéliques aussi qui pensent que leur Église est la seule Église de Dieu, puis que toutes les autres sont rien que des fausses Églises. On va vous dire un secret. Pour Dieu, il n'y a pas de fausse Église, ni de vraie Église d'ailleurs. Devant lui, il y a juste des cœurs faux ou des cœurs honnêtes, des vrais croyants ou des faux croyants. C'est juste ça que Dieu veut. On élève tellement l'Église locale et physique à laquelle on appartient qu'on oublie de penser à l'Église universelle et spirituelle dans laquelle notre nouvelle naissance nous a fait entrer, ce qui est bien mille fois plus important, il me semble. Écoutez-moi bien. Aucune organisation religieuse, quelle qu'elle soit, n'a le droit de dire qu'elle est à elle seule l'Église de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est avant toute chose un corps spirituel, formé à partir de toutes sortes de croyants, appartenant à toutes sortes de dénominations différentes. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation en particulier, mais de tout homme et de toute femme. Elle est formée de tout homme et de toute femme. Nés de nouveau, peu importe leur différence théologique. Une personne peut très bien faire partie d'une belle grosse église évangélique, puis pas faire partie de l'Église de Dieu pour autant, vous savez. D'un autre côté, si une personne a connu la nouvelle naissance, mais que pour une raison quelconque, cette personne-là appartient encore à une église, ou même si elle est encore dans sa vieille église traditionnelle, bien elle fait quand même partie de l'Église de Dieu. C'est possible, ça aussi. Peu importe l'organisation religieuse dont elle fait partie sur la terre, toute personne qui est née de nouveau est automatiquement incorporée dans l'assemblée des premiers-nés qui est inscrite dans les cieux. On n'est pas sauvé en joignant à un groupe particulier, mais en se joignant à Jésus-Christ. Ça commence-tu à entrer dans nos petites têtes un petit peu? Le corps de Jésus-Christ est un corps spirituel et invisible. L'Église, elle, donc partout. L'Église est donc partout et nulle part en même temps. Elle est partout de façon générale et nulle part de façon exclusive. Faire partie de l'Église baptiste, c'est rien. Faire partie de l'Église pentecôtiste, c'est rien. Faire partie de l'Église anglicane, c'est rien. Ce qui sauve, c'est d'être devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je sais qu'on sait tout ça, mais ça, de façon pratique, ça n'a pas l'air. Maintenant, un croyant qui a bien compris dans sa tête ce principe-là évangélisera plus jamais de la même façon. Il va parler beaucoup moins d'église locale à laquelle il appartient, puis beaucoup plus de Jésus-Christ qui sauve. Puis c'est comme ça qu'on devrait évangéliser. Les gens en ont ras-le-bol de se faire prêcher des églises. Le monde a soif de Dieu. Le croyant qui comprend la relativité de l'église locale va automatiquement être beaucoup moins sectaire dans sa façon de témoigner et d'évangéliser. C'est en montrant du respect aux autres, comme ça, qu'il va en inspirer lui-même. La Bible nous dit, à des dizaines d'endroits que les hommes vont être jugés selon leurs œuvres. Puis croyez-moi, quand on va être rendu là, le nom du clocher auquel on aura fait partie n'aura plus la moindre importance. L'étiquette baptiste ne protégera pas les baptistes, l'étiquette pentecôtiste ne protégera pas les pentecôtistes, puis l'étiquette catholique non plus ne protégera pas les catholiques. En Révélation 2, 23, Jésus a dit, « Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Tout un verset, pas vrai? Il va bien falloir un jour que les chrétiens évangéliques apprennent qu'évangéliser, ce n'est pas une campagne d'endoctrination de théologie évangélique. On n'est pas là pour donner des cours de théologie évangélique au monde, mais pour lui communiquer la vie de Jésus-Christ. Évangéliser, ce n'est pas prêcher notre Église au détriment d'une autre. Jésus-Christ doit être le centre de notre message, où on n'est simplement pas en train d'évangéliser du tout. Si on possède cette façon de penser-là, ça va nous aider à prêcher le pur évangile, puis travailler au salut de la personne devant nous autres va devenir beaucoup plus important que de confronter les erreurs doctrinales de son Église à elle. Les confrontations, là, c'est souvent très inutile. Je ne dis pas qu'elles sont jamais nécessaires, mais elles sont souvent inutiles et même nuisibles, dans bien des cas, à notre témoignage. Les confrontations nous aliènent souvent les gens. Puis évangéliser, c'est communiquer la vie de Jésus-Christ, comme je l'ai dit tantôt. Puis si votre évangélisation se situe seulement au niveau des différences doctrinales, vous vous écartez du but, puis vous n'arriverez pas à grand-chose. Quand on évangélise, il faut essayer de voir où, dans sa vie, la personne devant nous a besoin de Dieu le plus. Puis si c'est une personne pauvre, par exemple, parlons-lui de la richesse spirituelle que Dieu désire lui offrir par Jésus-Christ, et de la possibilité que Dieu la bénisse même matériellement. Si sa décision pour Jésus-Christ est honnête, pourquoi pas faire ça? S'il s'agit d'une personne qui a été éprouvée par la vie, c'est le moment de lui parler de la bienheureuse espérance que le Christ a promis à tous ceux qui croient en lui. Ce n'est pas le moment de la confronter au sujet de la doctrine, de la confession auriculaire, par exemple. Limitons-nous pas seulement à souligner le péché, mais aussi la belle justification de Jésus-Christ à tout homme de bonne volonté. C'est ça qui est important. Prêchons la repentance, mais prêchons aussi les vertus de celui qui les appelle des ténèbres à son admirable lumière. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça l'évangélisation. Limitons-nous pas à prêcher les doctrines de notre groupe particulier, alors qu'on peut prêcher les vertus de Christ, son pardon, sa grâce, sa sainteté, puis son merveilleux caractère. Ce sont ces choses-là qui font de l'Évangile un message attirant, un message d'espérance, puis un message puissant. On n'est pas là pour endoctriner les gens, selon notre Église, selon notre credo, mais pour leur montrer Jésus-Christ. Puis ça, mes amis, c'est tout un défi. C'est ça, l'évangélisation. L'évangélisation est tout un défi. Jésus n'est pas seulement venu accomplir le plan de salut, puis repartir ensuite. Parce que dans ce cas-là, ça aurait pris juste 3 jours et demi de ministère, au lieu de 3 ans et demi. Quand l'Écriture parle de l'Évangile, elle fait pas seulement référence aux 3 ou 4 derniers jours de la vie de Jésus-Christ, quand Jésus a été crucifié puis qu'il est ressuscité, mais à sa vie tout entière, de sa naissance à son ascension. Quand l'apôtre Jean a écrit son évangile, il l'a fait dans le but d'amener le lecteur à devenir croyant. Pour ce faire, il ne s'est pas contenté de rapporter les événements qui ont entouré la mort du Christ sur la croix, mais il a commencé à partir du temps même qui a précédé son incarnation et sa venue sur la terre. Alors, prêcher Christ, c'est plus qu'annoncer la théologie du plan de salut, comme on fait souvent, ou comme nos petits pamphlets le font souvent. Dans le fond, on peut tous témoigner de ce qui nous édifie, on devrait le faire, dans la personne de Christ, sa douceur, sa miséricorde envers les pécheurs, sa sagesse, sa sainteté, son obéissance envers Dieu, son intégrité de caractère, etc., etc. Et bien sûr, sa mort sur la croix. C'est ça prêcher Christ. Combien d'entre nous avons été touchés et convertis par le plan de salut? Hein? Relativement peu. Tous, par contre, ont été touchés par Christ, par son amour, par une de ses vertus ou par une des paroles qu'il a prononcées durant son ministère terrestre. Un exposé théologique concernant le plan de salut est très souvent inefficace dans l'évangélisation parce que les gens ne peuvent pas voir Jésus-Christ à travers ça. Je me souviens avoir fait de l'évangélisation dans les rues de ma ville une année. J'ai rencontré un jeune qui était assis là sur un banc du parc, puis là, je me mets à lui parler du plan de salut à partir de l'Ancien Testament, puis là, je lui ai expliqué la nouvelle naissance, la mort du vieil homme, puis la naissance du nouvel homme, puis tout ça. Puis je trouvais que ça allait bien. Le jeune, il m'écoutait. Je me disais à moi-même, hey, celui-là allait sûrement venir au Seigneur quand je vais avoir fini. Mais quand j'ai fini, le jeune homme me regarde et il me dit, « Ouais, ça a de l'allure, ce que tu dis. » C'est tout. Autrement dit, j'ai tout compris, mais ça ne m'aide pas pantoute. J'ai compris quelque chose, moi aussi, ce soir-là. Quelque chose que je ne suis pas prêt d'oublier. C'est exactement la leçon que je viens de vous donner ici. Le plan de salut ne sauve pas souvent. C'est Christ qui sauve. C'est Christ qu'on devrait prêcher, un petit peu plus, que juste la théologie qui tourne autour du plan de salut. On va parler un petit peu encore de l'agressivité du témoignage. Quand il y a des croyants qui rendent témoignage ou qui font du porte-à-porte, puis que les gens ne veulent pas les recevoir, qu'est-ce qui arrive? Il arrive souvent qu'ils s'entêtent à ne pas partir. Ils ont l'habitude de persister, même quand les gens leur ont pourtant fait bien comprendre qu'ils n'étaient pas intéressés. Des fois, la personne nous dit, « Bon, ben, je te donne 10 minutes, mettons. » Puis là, on est encore là après 20 minutes. La personne commence à montrer des signes d'exaspération, évidemment, mais ça ne nous dérange pas. On continue quand même. Hein? Tant qu'elle ne nous met pas dehors là, à coup de pied, on dirait là, qu'on peut rester. Écoutez-moi bien, mes amis, en agissant comme ça, là, on est en train de pécher contre cette personne-là, premièrement. Toute cette façon d'agir-là est un très mauvais témoignage pour l'Évangile, en plus. Il est mal poli d'agir comme ça. Je le sais, on croit agir dans l'intérêt des gens, mais en dépassant les limites que les gens nous ont souvent eux-mêmes posées, on ne fait rien que les mettre en colère. Puis savez-vous ce qu'on fait? On brûle la terre pour les futurs croyants qui vont peut-être essayer de témoigner un jour à ces mêmes personnes. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Au lieu d'être plus ouverts à l'Évangile, ils vont être plus fermés. Pourquoi? Et parce qu'ils vont toujours se souvenir de la dernière expérience avec le fameux chrétien évangélique qu'ils ont rencontré, puis qui ont eu de la misère à mettre dehors. Hein? Ils vont avoir deux fois plus de crainte d'être envahis par nous autres que la première fois. Alors, il faut comprendre ça. Pas dur à comprendre. Il y a une différence entre évangéliser et achaler les gens avec l'Évangile. Quand il y a des gens qui nous rejettent, ils ne sont pas nécessairement rebelles à l'Évangile. Des fois, ils sont simplement rebelles aux achalants. On sait quand témoigner, mais souvent, on ne sait pas quand s'arrêter. Mais la sagesse enseigne qu'il vaut mieux leur dire juste une petite parole qu'ils vont pouvoir digérer tranquillement, qu'ils vont accepter, que de mettre quasiment le pied dans la porte puis d'essayer de leur lire 48 versets, là. Puis les écœurer avec ça. En faisant ça, on ne fait rien que passer pour des fanatiques religieux, puis nous allons nous-mêmes avoir éloigné ces gens-là du Seigneur parce qu'ils vont se méfier encore plus des gens comme nous autres dans le futur. Le monde s'endurcit, ben oui, mais je me demande si on n'y est pas pour quelque chose là-dedans. Un petit peu. Il n'y a pas rien que le péché qui endurcit les gens. Je me demande si l'Église ne le fait pas elle-même. J. Parker, dans son livre « L'évangélisation et la souveraineté de Dieu » a dit « S'accrocher à quelqu'un, faire des intrusions dans sa vie privée, insister outre mesure, ce ne sont là que des travesties en matière d'évangélisation. Un tel manque de politesse déshonore Dieu, et de plus, il crée un sentiment d'irritation chez la personne qui en est l'objet. » Fin de citation. Il faut annoncer la bonne nouvelle aux gens, pas les violer avec la Bible. Les gens ont souvent l'impression qu'on veut leur enfoncer la Bible dans la gorge sans même leur demander leur avis. Il y a des chrétiens qui agissent comme ça juste parce qu'ils sont impolis. Ils ne font pas ça pour mal faire. Ils ont mal été élevés, c'est tout. Le respect des gens leur a jamais vraiment été inculqué. Puis ils sont habitués de vivre de même. Puis ils se font traiter comme ça, fait qu'ils traitent les autres comme ça. Ils ne savent simplement pas quand ils devraient s'arrêter. C'est sûr qu'on doit faire nos efforts pour amener les gens au salut. Mais attention, on ne doit pas oublier que ces mêmes personnes ont un libre choix devant Dieu aussi, puis qu'on n'a pas le droit de violer. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver là-dedans. Là. Moi, je pense que ce n'est pas sans raison que les gens ont peur de nous autres, les chrétiens évangéliques, puis qu'ils nous trouvent envahissants. C'est justement parce qu'il y en a tant eu qui n'ont pas donné respecter la volonté des gens à qui ils ont parlé. Si certaines personnes ne veulent pas qu'on leur parle, retirons-nous, puis laissons au moins le bon témoignage qu'on les respecte. Comme ça, on va au moins leur laisser quelque chose. En parlant de sa conversion, Richard Wimbledon a rendu quelque part ce témoignage. « Le Christ m'a conquis par sa politesse. » En effet, Jésus a dit en Révélation 3:20, « Voici, je me tiens à la porte, puis je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » OK? Coopération volontaire, là. Des fois, sans s'en rendre compte, par notre attitude, on tend à imposer l'Évangile aux gens, puis on a vraiment tort de faire ça. Ça ne sert pas la cause de Jésus-Christ du tout d'agir comme ça. Derrière notre beau zèle à sauver les âmes, il y a peut-être aussi un petit peu d'orgueil en nous qui fait que de se faire repousser, c'est un peu difficile à accepter. C'est peut-être pour ça qu'on insiste tant pour que les gens nous écoutent plus. Ça prend l'humilité pour évangéliser, parce que non seulement vous allez être rejeté, puis vous allez devoir l'accepter en plus, de la même façon que notre maître l'a accepté. Si on veut vraiment avoir du zèle puis de la détermination à sauver les âmes, eh bien, ayons-le au bon endroit, c'est-à-dire dans la prière et les supplications pour que Dieu travaille plus dans les cœurs puis qu'il les dispose favorablement à sa parole. On doit prendre bien garde dans quel esprit on évangélise puis de rester fidèle à l'esprit de l'Évangile, à l'esprit de la bonne nouvelle. Devant Dieu, l'être humain est en tout temps entièrement libre de rejeter ou d'accepter l'Évangile, puis il va juste falloir qu'on vive avec ça, c'est tout. Si on commence à s'irriter puis à durcir le ton à chaque fois qu'on est rejeté, je pense qu'on serait bien mieux de se taire peut-être, puis de retourner sur nos genoux un petit bout de temps. On va parler du rejet. Quand les gens rejettent l'Évangile, on ne doit pas considérer ça comme un échec, mais plutôt comme une confirmation de perdition, peut-être, dans certains cas. C'est important qu'une personne établisse clairement où elle se situe réellement dans sa relation avec Dieu. Tout comme l'Arche de Noé, l'Église de Jésus-Christ est appelée à remplir une double mission, prêcher la bonne nouvelle d'un salut gratuit en Jésus-Christ, puis annoncer la condamnation de ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, puis qui foulent aux pieds la grâce de Dieu. En Matthieu 24:14, Jésus a dit que l'Évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Notre première mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Puis l'autre, c'est d'être les témoins de la rébellion de ceux qui rejettent cette même bonne nouvelle, puis les avertir des conséquences. Si l'unique mission de l'Église de Jésus-Christ sur la terre consistait à sauver le monde, on pourrait dire qu'elle aurait drôlement failli à sa mission, parce que le nombre de sauvés a toujours été infiniment inférieur à ceux qu'ils sont. Il faut comprendre que l'Église est aussi sur la terre pour rendre témoignage aux rebelles qu'ils sont en état de perdition. Ces deux témoignages exigent généralement très peu de paroles. Comme Noé qui condamnait le monde par la simple construction de l'arche, notre manière de vivre, sainte et différente du reste des hommes, suffit très souvent à rendre ce témoignage de condamnation-là. L'arche ne parlait pas, mais elle traduisait très efficacement la pensée de Dieu en ce qui concerne le monde, par exemple, et la sainteté. L'arche rendait au monde entier le témoignage suivant. Dieu a connu vos voies, il a pesé vos actions, puis il est sur le point d'anéantir la race humaine de la surface de la terre à cause de sa méchanceté et de ses péchés. L'arche est votre dernière chance de salut. C'est ce que l'arche disait. Charles Stanley a dit « Dieu a placé les chrétiens dans le monde pour être la conscience de leur nation. » Ça ne signifie pas toujours qu'on va réussir à les convertir, au contraire. Comme on peut s'y attendre, au jour du jugement, il y en a beaucoup qui vont sûrement essayer de se justifier en disant qu'ils n'ont pas été suffisamment avertis de ce qui les attendait. Alors le rejet qu'ils nous auront fait subir va servir de pièce à conviction, en quelque sorte, durant leur jugement. Ils vont essayer de dire que l'Évangile leur a pas été prêché assez souvent, mais une fois suffit, dans le fond, si elle est bien comprise. Jésus a dit qu'il était venu pour sauver le monde. Mais en Jean 9:39, Jésus a aussi dit qu'il était venu pour exercer un jugement dans le monde, c'est-à-dire faire une séparation, ou rendre la différence évidente entre celui qui sert Dieu puis celui qui ne le servait pas. Ça, c'était la double mission de Jésus-Christ. Puis maintenant que l'Église est le corps de Christ dans le monde aujourd'hui, eh bien, elle est appelée à remplir la même double mission que lui, à être les porteurs des messages de salut et de condamnation. Mais je veux faire une mise en garde ici. Je sais bien que c'est frustrant de se faire rejeter, puis que ça peut être vraiment tentant d'envoyer promener les moqueurs, de secouer nos vêtements, mais on ne doit pas fermer la porte du royaume de Dieu sur la figure de ceux qui ne veulent pas pour le moment y entrer. Ça serait contraire à l'esprit de la bonne nouvelle. En Matthieu 23, 13, Jésus reproche justement ça au docteur de la loi en disant « Vous fermez la porte du royaume de Dieu ». En Luc 10, 11, ça dit « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. » Alors il a fini quand même sur une note positive. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu doit être annoncée aux gens. S'ils ne la reçoivent pas, alors leur condamnation doit leur être annoncée également. Il faut les avertir que ce qu'ils font à la grâce de Dieu risque de leur être fait aussi au jour du jugement. Mais on ne doit pas secouer nos vêtements avec une attitude charnelle de frustration, par exemple. La fin du verset, comme j'ai dit tantôt, donne un tout autre ton à ce qui précède. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché, qu'il est encore disponible. Comme pour leur dire, oui, si vous rejetez l'Évangile, vous serez condamné, mais si vous changez d'idée, il sera toujours temps de revenir sur votre décision, puis d'accepter la bonne nouvelle. L'avertissement prononcé ne doit pas être fait dans un esprit de vengeance ou dans l'amertume d'avoir été rejeté. On doit laisser la porte du salut ouverte à ceux qui ont rejeté le message à cause de l'ignorance de leur incrédulité. On ne doit jamais oublier que l'Évangile est un appel à la grâce de Dieu d'abord et avant tout. En Galates 1,15, Paul a dit encore, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce. » Une bonne prédication de l'Évangile doit appeler les gens par la grâce de Dieu. L'enfer, la condamnation, le jugement dernier peuvent, dans une certaine mesure, faire partie de notre prédication, mais certainement pas en être le centre. La mission de l'évangéliste est de mettre la grâce de Dieu en évidence. Seule la grâce et la miséricorde de Dieu peuvent vraiment gagner un cœur rebelle. En Jean 10, 26, Jésus a dit, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Jésus ne donnait pas, comme nous autres, un mâle de chien à plus finir pour convaincre le monde de son message. Il ne bûchait pas sur les mêmes personnes comme nous autres, on le fait si souvent. Jésus parlait, les brebis acceptaient sa parole, puis décidaient simplement de le suivre. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent », dit Jésus. Jésus-Christ ne s'acharnait pas sur les gens. Devenir disciple de Jésus-Christ doit être le fruit d'une décision volontaire. Jésus ne cherchait pas à lier les gens à lui ou à son message. Ceux qui avaient compris qui il était le suivaient simplement d'eux-mêmes. Alors les croyants qui se rendent malades de tristesse pour avoir évangélisé la même personne 50 fois sans résultat, perdent très souvent carrément leur temps et leur morale en plus. Les gens doivent sentir que devenir chrétien, c'est un privilège que Dieu fait au monde. C'est pour ça que je dis que plus on pousse, qu'on presse, puis qu'on tire les gens pour qu'ils deviennent chrétiens, on n'aide pas l'œuvre de Dieu, on ne les aide pas, même qu'on lui nuit dans la majorité des cas. Alors cessons d'insister puis d'insister, comme si on était des vendeurs d'assurance, comme quand on parle de l'Évangile à quelqu'un puis qu'il ne veut pas nous entendre. Si la personne à qui on parle est une brebis, comme l'a dit Jésus, elle viendra bien se joindre à Jésus-Christ tôt ou tard. Puis si ce n'est pas une, eh bien, nos plus grands efforts serviront à rien de toute façon. En Romains 8, 30, Paul a écrit « Ceux qu'il a prédestinés les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ces gens-là, Paul les appelle ailleurs les élus. Je connais des gens qui vivent dans la crainte d'être tenus par Dieu responsables du fait que certaines personnes soient allées en enfer à cause d'eux autres pour avoir négligé de leur témoigner pendant qu'ils étaient vivants. Bon, écoutez-moi bien. Personne ira en enfer parce qu'on aura négligé d'aller évangéliser ou de témoigner à certains moments donnés durant sa vie. L'évangélisation est faite pour permettre à Dieu d'entrer en contact avec les élus et les sauvés. Paul fait très clair que ceux que Dieu a préconnus vont se voir un jour placés devant l'Évangile d'une façon ou d'une autre. Si on a négligé de parler de l'Évangile à une personne alors que Dieu semblait vouloir nous utiliser, cet élu-là n'ira pas en enfer pour ça. Dieu n'est pas dépourvu de moyens à ce point-là. Dieu va simplement utiliser quelqu'un d'autre, c'est tout. En ne parlant pas à une personne à qui Dieu veut qu'on parle, on va s'être rendu coupable de désobéissance, d'accord? Mais il n'y a aucun élu de Dieu qui va aller en enfer pour ça, par exemple. Un élu ne peut pas aller en enfer, sinon ce ne serait plus un élu. Si l'instrument A fait défaut dans son témoignage, on peut avoir l'assurance que Dieu a déjà, de toute éternité, prévu un instrument B quelque part pour joindre cette personne-là. De l'autre côté, les gens que Dieu ne juge pas bon d'appeler, ce sont ceux qui n'ont pas le cœur assez honnête pour écouter l'Évangile, puis le mettre à profit de toute façon. Moi, je connais un type là, qui a été témoigné depuis à peu près 20 ans par au moins une trentaine de chrétiens, si ce n'est pas plus. L'autre jour, je l'écoutais parler, puis il était encore là, justifié de ses péchés, à citer des versets de la Bible hors contexte pour leur faire dire ce qu'il voulait. Il a lu la Bible très souvent, il est abonné à plusieurs revues chrétiennes, mais il a toujours continué à pratiquer ses vieux péchés comme avant, puis à se tenir avec ses vieux chums. On dirait que plus cet homme-là a été témoigné, plus il a lu la Bible, moins il la comprend, puis plus il est rebelle dans le fond. Alors la doctrine de la prédestination, il faut y croire. Je veux dire qu'il faut faire confiance à Dieu dans le choix qu'il fait de ses élus. Ceux que Dieu choisit ont un cœur honnête, tout au fond d'eux, et prêts à dire oui à Dieu. Puis ceux qui ne choisissent pas d'appeler, ce sont que de perpétuels rebelles au fond de leur cœur. C'est ça la vérité. C'est pas évident pour nous autres toujours, mais tout ça, c'est très clair pour Dieu. Très, très clair. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle sont connus d'avance par le Seigneur. Ceux que Dieu a connus d'avance vont être appelés par lui, puis ils vont répondre à l'appel de Dieu, tôt ou tard. Alors, c'est pas pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis qu'il est tout à fait inutile de témoigner 50 fois la même personne, de faire des pressions sur eux autres, de les achaler continuellement, puis de continuer à leur casser la tête s'ils veulent pas nous écouter. À moins, bien sûr, que Dieu nous mette à cœur de le faire, de faire quelque chose comme ça, mais de façon générale, l'Évangile doit simplement être annoncé, puis les gens qui sont destinés à devenir croyants vont se mettre à suivre Jésus-Christ naturellement, de la même façon que les brebis suivent leur berger naturellement. Alors, rendez-vous pas malade avec les échecs que vous subissez dans vos efforts d'évangélisation. Tout fait partie d'un plan. Tout fait partie du plan de Dieu. En 1 Corinthiens 1, 21, Paul a dit, « Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. » Pourquoi ça? Bien, Dieu a choisi le moyen de la prédication parce qu'elle ne permet pas aux pécheurs de contester avec Dieu, puis de poser toutes sortes d'objections tortueuses. Dans un témoignage de personne à personne, il s'engage souvent des discussions inutiles qui durent parfois des heures, puis pendant lesquelles la personne essaie de raisonner avec nous autres pour marchander son salut, là, ou pour justifier sa rébellion. On n'en arrive jamais au point où elle accepte le Seigneur. Le pécheur s'efforce de raisonner pour repousser sa responsabilité de prendre une décision. Eux autres s'amusent à nous bombarder d'arguments malhonnêtes, puis nous autres, ben, on y croit, on s'empête à essayer de leur répondre, à leur grande satisfaction d'ailleurs. La prédication, par contre, laisse pas le loisir aux pécheurs d'agir comme ça. Par la prédication, Dieu lance son message, puis il s'en va. La prédication inspire, donc, une certaine crainte de Dieu, parce que ça ne laisse pas à l'homme d'autre choix que de prendre une décision. Aucun compromis n'est accepté de la part de Dieu. Dieu n'est pas intéressé à entendre les bonnes raisons pour lesquelles les gens ne désirent pas devenir croyants, comprenez-vous? C'est ça que les gens viennent à comprendre. Jésus ne courait pas derrière les gens pour s'agripper à leur manteau, puis les supplier de l'écouter, puis de devenir croyants. Quand Jésus avait fini de parler quelque part, il partait, c'est tout. Il n'a jamais supplié personne de le suivre. L'homme adore être supplié. Plus on va plaider avec lui, puis supplier, plus il va se laisser faire, vous savez. Oui, il faut plaider avec les gens, mais il faut savoir s'arrêter de plaider également à un moment donné. Trop plaider avec les gens, ça finit par donner une impression de faiblesse que les gens méprisent, dans le fond. Les gens vont nous mépriser. Notre message va tomber par terre. En passant beaucoup de temps à plaider avec quelqu'un, on lui rend pas service parce qu'au lieu de l'amener à prendre une décision pour le Seigneur plus rapidement, il en profite justement pour faire le contraire, puis retarder sa décision encore plus. Plus qu'on lui donne de câble, plus qu'il va le prendre, puis plus qu'il va en avoir envie d'en avoir plus aussi. Moi, j'ai fait énormément de porte-à-porte dans ma vie, mais j'en fais plus maintenant parce que je ne crois plus au porte-à-porte. Ça, c'est une des raisons. J'ai eu de très bons contacts sur le lot, mais l'expérience m'a souvent permis de réaliser que dans le porte-à-porte, très souvent, on dérange les gens, puis généralement, ils se sentent envahis dans leur vie privée, puis ils n'aiment pas ça. Alors, tout bien pesé, là, quand on considère les très rares véritables bons contacts d'un côté, puis tous les autres qu'on a irrités, je pense que ça vaut pas le coup du tout. on se fait une très mauvaise réputation, puis cette mauvaise réputation-là retombe malheureusement sur toute l'Église évangélique, même sur ceux qui évangélisent pas. On voit nulle part dans tout le Nouveau Testament qu'un apôtre ait jamais exhorté les croyants à aller témoigner ou aller faire du porte-à-porte. Avez-vous déjà réalisé ça? Jésus a clairement dit à ses disciples, n'allez pas de maison en maison. Pourquoi? Parce que c'est achalant pour le monde, puis que ça nuit à notre témoignage. J'ai énormément fait de porte-à-porte pour ma part, puis je peux vous dire qu'en arrivant chez les gens sans prévenir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, 9 fois sur 10, on les dérangeait. La seule expression qu'ils avaient sur le visage nous disait qu'on les dérangeait, puis quand ça allait, quand on allait leur dire en plus que c'était pour leur parler de Jésus-Christ, ben c'était encore pire, évidemment. Alors on se faisait détester, puis on faisait détester l'Évangile aux gens, au lieu de leur faire aimer. Vous allez peut-être tomber sur un bon contact de temps en temps, je ne dis pas le contraire, mais pensez à tous les autres qui vont garder un mauvais souvenir de vous, puis de ce que vous représentez, puis je pense encore une fois que ça ne vaut pas le coup. Ça ne sert pas la cause de notre maître. Ça ne sert pas la cause de l'Évangile, du royaume de Dieu. Les premiers chrétiens ne faisaient pas de porte-à-porte, puis je défie n'importe qui de me montrer ça dans le Nouveau Testament. La seule chose qui s'en rapproche, c'est Actes 5, 41-42, qui dit que les apôtres enseignaient dans le temple et dans les maisons. Ça ne dit pas qu'ils allaient de maison en maison, mais qu'ils enseignaient dans les maisons. On en a un exemple de ça quand Pierre a été demandé pour aller prêcher dans la maison de Corneille, ou quand Paul est allé dans la maison du geôlier. Paul et Silas ont été invités à la maison de Lydie en Actes 16, puis encore, il a fallu qu'elle leur fasse des instances. Les apôtres ne couraient pas les maisons. En 2 Timothée 3,6, ça dit que les faux circoncis s'introduisaient dans les maisons. Autrement dit, ils n'attendaient pas qu'on les invite aux autres. Ils entraient partout qu'ils pouvaient, puis c'est bien là la façon d'agir mal polie du malin. Aujourd'hui, je suis contre le porte-à-porte. Je pense que c'est plus un secret depuis tantôt, là. Pour une personne convertie par le porte-à-porte, vous en avez hérité à peu près 2000 autres. Alors, faut pas oublier ça non plus. Il y a beaucoup d'autres façons de témoigner que de s'immiscer dans le domaine privé des gens. Il y a les journaux, il y a les pamphlets, il y a le personne à personne, il y a les places publiques, il y a les parcs, il y a un paquet de choses qu'on peut, il y a un paquet de moyens qu'on peut utiliser, la télévision, la radio. On n'a pas besoin de faire du porte-à-porte par chez le monde. Une Danoise a écrit ceci au quotidien Jeunesse. Les témoins de Jéhovah viennent sans arrêt nous harceler chez nous. Cela mérite terriblement, mais je ne vois aucun moyen de les en empêcher. La loi ne pourrait-elle pas interdire leur intrusion? Fin de citation. Ça, j'ai pris ça, savez-vous, dans la tour de garde du 15 janvier 89. Les témoins de Jéhovah ont fait paraître eux-mêmes cet article-là dans leur publication pour montrer comment ils étaient persécutés injustement. Franchement, quand on ne veut pas comprendre, on ne veut pas comprendre. Il me semble que nous autres, les croyants évangéliques, on devrait être sensibles un petit peu plus que ça. À ce que les gens perçoivent en nous autres, c'est important, puis ajuster notre façon de faire avec eux. Quand on insiste aux portes, on manque de respect pour les gens, puis le manque de respect, c'est un manque d'amour. C'est pas bon que les chrétiens soient perçus comme des achalants, qui sont toujours en train de chercher à entrer dans la vie des gens contre leur volonté. Jésus n'était pas du genre à s'incruster. Quand on ne voulait pas de lui, alors suivons son modèle. Jésus s'en allait. Faisons rien que le Christ ne ferait pas. En Luc 9, 52-56, il dit, il envoya devant lui des messagers, se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, mais on ne le reçut pas. Ils allèrent dans un autre bourg. C'était ça, Jésus. À l'intérieur de la parabole des conviés, il est dit, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouves, contraire-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Luc 14, 23. Maintenant, on ne peut pas. Ça, c'est un verset qui a été souvent mal interprété dans l'histoire, qui l'est encore d'ailleurs. Maintenant, on ne peut pas transporter littéralement le verbe contraindre, qui a été tiré d'un événement du domaine naturel, dans le domaine spirituel. On ne peut pas apporter cela. On ne peut pas contraindre les gens à se convertir, c'est bien évident. On ne peut pas les contraindre à nous écouter non plus s'ils ne désirent pas entendre ce qu'on a à leur dire ou s'ils veulent qu'on arrête. Quand un vendeur d'assurance vient frapper à ma porte puis qu'il se met à insister, puis à insister encore après que je lui ai dit que je n'étais pas intéressé, j'ai avec raison la nette impression qu'il n'a pas de respect pour moi. Il est en train d'essayer de contraindre ma volonté, puis j'aime pas ça. Le respect de la volonté, c'est un terrain sacré pour Dieu. Puis il serait grand temps qu'on réalise ça devant, avant de plus avoir de témoignage du tout dans le monde. Parce que si Dieu ne peut pas nous faire entendre raison là-dessus, il se peut bien qu'un jour, il soit obligé de permettre au gouvernement de faire des lois qui nous restreignent. Moi, je dis qu'un jour où ça va arriver, on ne l'aura pas volé, mes amis. On ne l'aura pas volé du tout. Quand Jésus disait de contraindre les gens à entrer dans le royaume de Dieu, il voulait vraisemblablement dire de prêcher avec hardiesse. Paul, qui était lui-même évangéliste, savait combien c'était important. En Éphésiens 6, 19, il dit « Priez pour moi afin que me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Alors, contraindre les gens à entrer dans le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire de les forcer à nous écouter, de les forcer à devenir chrétiens à force de les achaler, mais de les appeler et à les exhorter avec conviction, avec hardiesse, à donner leur cœur à Jésus-Christ. Ça a pas mal plus d'allure d'interpréter ça comme ça. C'est plus en harmonie avec l'esprit de l'Évangile, je trouve, que le contraire. En 2 Timothée 4, 2, Paul a dit à Timothée, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Le mot grec traduit par le verbe « insister » est « epistémie », qui veut dire « se tenir prêt à être disponible ». On a longtemps pensé que toute occasion, favorable ou non, ça voulait dire de profiter de toutes les occasions, bienséantes ou malséantes, pour témoigner de notre foi. Ce qui ne veut pas dire ça du tout. Moi, j'ai entendu parler d'un croyant nouvellement converti qui s'était levé un jour au beau milieu d'un restaurant bondé de monde à midi, puis qui avait commencé à prêcher. Bon, on ne l'a pas laissé faire longtemps, évidemment. Paul n'encourage certainement pas ici les actions malséantes, déplacées comme celle-là, puis qui ont pour seul résultat, dans le fond, de donner une odeur de fanatisme au christianisme, puis qui apporte un opprobre inutile de plus à l'Évangile. Ce que Paul voulait dire à Timothée, qui était un évangéliste, en lui disant d'insister, c'est de ne pas se relâcher dans la prédication, mais de profiter des opportunités que le Seigneur lui offrait, puis de ne pas se laisser effrayer surtout par les circonstances difficiles, comme les persécutions. C'était ça les temps qui n'étaient pas favorables. Par exemple, en 1 Thessaloniciens 2.2, Paul dit, « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » On voit un exemple ici que Paul a mis en pratique l'exhortation qu'il vient de donner à Timothée. Insister, ça a un effet répulsif, tandis que le respect de la liberté de choix laisse une bonne odeur. Quand on est poli et respectueux comme ça, quand on parle du Seigneur aux gens, ça chasse une bonne partie de cette peur là, injustifiée là, qui les rend si souvent inapprochables pour Dieu avec l'Évangile. Les gens ne sont pas toujours fermés parce qu'ils sont rebelles à l'Évangile ou parce qu'ils détestent Dieu, vous savez. Mais ils sont souvent fermés envers les croyants évangéliques parce qu'ils craignent qu'on s'impose dans leur vie. Ils craignent qu'on les endoctrine, puis qu'on les enrôle. Il n'y a personne qui aime se sentir lié. Alors c'est souvent pour ça que les gens font seulement embailler leur porte d'un pouce ou deux quand ils nous parlent. Ce n'est pas de la rébellion. C'est un simple et légitime mécanisme de protection.